Rayon Libre sur Cause Commune. L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Rayon Libre avec mon invité en face de moi et nous ne sommes pas en direct. Merci d'écouter Cause Commune. Merci de relayer, de liker, de donner aussi. Vous saviez que Cause Commune est une radio associative qui vit un peu grâce aux subventions et beaucoup grâce aux dons. Cette semaine, la crise dans le vélo. Mais quelle crise ! Mais avant, on va vous parler d'une réflexion qui m'est venue en discutant après l'émission avec mes invités du Love Tour, Philippe Latour et Laurent Tesser. Je les invite à solliciter la presse régionale pour qu'elle raconte leur organisation. En échangeant avec eux, j'ai bien compris, ils n'ont pas comme ambition de cumuler les retombées presse, qu'ils n'ont ni envie d'une plus grande exposition, ni besoin d'avoir plus de participants, ni même avoir plus de followers ou de likes sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça me semble important qu'ils sollicitent la presse locale, parce que l'important est ailleurs, il est culturel, il est social, il est sociétal, c'est porter un plaidoyer. Leur événement est une opportunité de raconter le vélo autrement, décentrer le prisme d'un aménagement cyclable discutable et discuté, un récit autre qu'un accident mortel impliquant un cycliste et un automobiliste. Leur Love Tour, qui est en 2026, sera le Love Tour du monde de la France, est une opportunité de sortir le vélo d'une case fête d'hiver ou politique ou aménagement urbain. Juste de la bonne humeur, une opportunité de plaidoyer. Il y a des médias qui prennent le parti de ne raconter que des bonnes nouvelles. Je pense aux médias positifs. Je ne connais pas leur audience sur le web, sur Instagram, ils ont quand même 2,1 millions de followers, dont moi. Et c'est agréable cette dose de bonnes nouvelles. Pareil pour ce compte Instagram, The Impact Story, de 712 000 followers. Que de jolies histoires. Aujourd'hui, Rayon Libre répond à cette envie, raconter des bonnes nouvelles, peu importe que cette bonne nouvelle soit locale ou nationale, que cet agrandissement ait un impact sur 1000 emplois ou deux. Une bonne nouvelle est une bonne nouvelle et c'est bien de s'y intéresser. On entend plus parler des redressements judiciaires et des fermetures de magasins que de lancements et succès et ouvertures dans le monde du vélo. Mon invité du jour, il s'agrandit modestement, tranquillement, sans trompette ni fanfare. Il ouvre un deuxième lieu à quelques mètres de son magasin. Lui, c'est Antoine Gastelier, des cycles d'Antoine, des bécanes d'Antoine, à Pantin, le long du canal de l'Ourcq. Pourquoi ouvrir un deuxième lieu? Est-il à l'étroit? Veut-il proposer autre chose à ses clients existants? Veut-il attirer de nouveaux clients? Et qu'est-ce qu'il va proposer? Et pourquoi? Et comment? Et est-ce que ça va marcher? Toutes ces questions vont être abordées dans les 30 minutes qui suivent, toutes, sauf la dernière. Évidemment que ça va marcher. Merci. Bonjour Antoine Gastelier. Merci d'être avec nous au micro aujourd'hui.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Deux boutiques bécanes d'Antoine. Vous allez être dans laquelle, vous Antoine?
Alors,
vous n'avez pas le don d'ubiquité. Hein.
Selon l'IA à qui j'ai demandé une aide d'organigramme, je serai sur les 2 à 57 heures. Ça m'a beaucoup fait rire.
Donc vous avez demandé à l'IA un conseil et vous lui avez dit voilà mon projet, je suis le patron, comment je m'organise? Et il vous fait cette réponse-là.
Je lui demande un organigramme, ouais. Parce que je ne savais pas trop comment m'organiser, savoir le personnel dont j'aurais besoin pour monter ce projet. Ouais. C'est un peu, je tâtonne tout le temps en fait, j'aime bien ça. Et je me suis dit tiens, je vais tâtonner l'IA parce que je ne sais pas l'utiliser. Donc je lui ai dit voilà, j'ai deux lieux, ils sont l'un à côté de l'autre. On voudrait faire tel horaire à tel horaire dans un lieu, tel horaire à tel autre dans l'autre. Autre lieu, et moi, où est-ce que je me trouve? Et il m'a dit, t'es au milieu, et t'es à 57 heures. Et là, je lui ai dit, il y a semble-t-il un problème, 57 heures, c'est en dehors des règles du travail. Mmh. Et la roue s'est mise à tourner, ne s'est jamais arrêtée. Il a fallu que je quitte l'application et que je la relance. Et il m'a dit, vous avez raison, il y a un problème.
Et voilà, et c'est tout. Et démerdez-vous avec
dit,
ça.
Je lui ai dit, excuse-toi quand même. Et non.
Les limites de l'IA. Et d'ailleurs, ça me permet de saluer Jean-Philippe Clément, qui fait une émission formidable ici, qui s'appelle Parlez-moi d'IA. C'est sur Radio Cause Commune. Est-ce que c'est l'IA qui vous a donné envie d'ouvrir un deuxième magasin?
Pas du tout, c'est vraiment l'humain en fait. Le premier magasin, pour en faire une brève histoire, c'est un cyclo-café que j'ai monté en 2017 sur Pantin, ouais. En saisissant l'opportunité d'un local commercial mis à appel à candidature. Mais ça m'a permis de rédiger le projet, de faire un prévisionnel et de me rendre compte que c'était peut-être viable. À ce moment-là, j'étais dans un autre métier.
Vous venez pas du vélo, hein, vous,
non,
hein, Antoine,
je suis pas cycliste averti, je suis cycliste urbain depuis 93 dans Paris, mais voilà, je connais que le vélo urbain et je voulais un lieu de télescopage des cultures cyclistes. Donc je voulais que quelqu'un qui arrive en BMX croise quelqu'un qui arrive en Ironman, et je trouvais ça génial. Ça, c'est arrivé au début. Le Cyclo Café a ouvert en 2017, a fonctionné pendant 2 ans avec des vraies rencontres de gens des rencontres totalement hasardeuses, qui étaient vraiment très drôles.
Une sorte de look Mums No Hands qu'on a connu
voilà,
à Londres.
Voilà. Alors, je connais pas tout à fait les tenants et aboutissants de look Mums, mais un peu ça, le coffee shop où les gens finalement vont faire le lien entre le vélo. Ils ont pas les mêmes, mais ils vont pas s'empêcher de se parler, quoi. Ouais. Et ce qui était très drôle, c'était que tout le monde se mêlait de la conversation des autres. Et ça, je trouvais ça génial.
Il y avait personne qui disait, mais toi, t'es,
ouais,
toi, t'es
jamais, parce que le lien, c'était le vélo.
Ouais.
Et puis, ça a périclité parce que le magasin avait besoin de vivre et avait besoin de place, et donc l'atelier avait besoin de place puisque l'économie principale, c'est finalement au fil des années, c'est vraiment l'atelier qui fait un matelas économique sur lequel après on peut essayer de gréver des choses. Donc petit à petit, le magasin a grossi, l'atelier a grossi et le café a perdu sa place.
Ouais.
Et ça m'a toujours un peu attristé parce que je trouvais ça vraiment chouette, mais en même temps, j'ai enfin un peu mieux gagné ma vie puisque au tout début, pendant 3 ans, je me payais pas, je bossais la nuit sur mon ancien métier.
Comme l'IA, vous l'avez recommandé.
Voilà, comme l'IA m'avait recommandé. Alors là, j'étais plutôt à 65 heures.
Ouais.
65, ouais, facilement pendant 3 ans. Et j'avais pas d'aide, pas de chômage, voilà. Mais ça s'est lancé comme ça et j'étais tout le temps heureux. Ouais, j'ai tout le temps super content. J'ai fait des très belles rencontres et l'équipe a grossi par les rencontres. Donc aujourd'hui, j'ai une très chouette équipe qui me permet de libérer du temps pour aller faire des talks sur des radios.
Ouais.
Et puis l'idée est revenue, la ville de Pantin m'a proposé un local plus grand parce qu'on était un peu petit, alors il y avait un achat de local derrière, ouais. Ce qui est pas mal en fait, c'était une belle opportunité parce que le prix n'était pas dingue.
Oui, mais un achat social, en tout cas, entre guillemets, un achat aidé.
Non, pas aidé, mais pas trop cher,
ouais.
À prix maîtrisé,
ouais.
Et pas gourmand quoi. Et donc c'était avant le Covid, puis après le Covid, on a oublié l'idée parce qu'on était en dehors du Covid et qu'on était à fond sur les aides à 50 euros, sur les...
Le fameux coup de pouce vélo. Là,
le coup de pouce, ouais. Vélo, on a bossé à bloc dessus pendant 1 an et demi, on a fait 1700 dossiers, voilà, bon, ça a pris beaucoup de temps, plus le reste, hein,
ouais.
Les autres vélos qui avaient déjà eu des coups de pouce ou alors qui ne pouvaient pas en avoir. Donc on répare à peu près entre 3000 et 4000 vélos par an. Et,
aujourd'hui, les bécanes, ouais. D'Antoine, c'est allez, on va dire 3500 vélos. Vélo qui passe sur le pied d'atelier à un moment donné.
Ouais. Donc aujourd'hui, il y a trois pieds d'atelier électriques, 3 à 4 mécanos.
Mais pour avoir donc ça, c'est quand même quasiment une dizaine de vélos par jour.
Ouais, minimum, ouais.
C'est
ouais.
Beaucoup, hein.
Ouais, c'est beaucoup. C'est fatigant, c'est très très fatigant physiquement, et donc l'équipe est très très motivée,
ouais.
Et très motivée par le nouveau projet. Donc ce projet d'agrandissement, c'était quelques centaines de mètres plus loin, 240 mètres plus loin.
Ouais.
Et c'est à la fin de la ville de Pantin, la limite de Bobigny, et je trouvais assez drôle parce que c'est vraiment le début d'une espèce de piste qui est un peu toute chaotique, qui nous permet, nous, de faire tester des vélos, des gravels, donc des vélos, ouais. Un peu tout terrain. Il y a un petit côté aventure, et puis c'est aussi participer au développement de ce quartier avec la ville de Pantin. Et chose que j'avais beaucoup appréciée sur le premier projet, hein, c'était vraiment dire, bah, il y a ce quartier qui existe, il faut le faire vivre. Et moi, j'arrivais avec un projet un peu hipster, un peu bobo parisien, comme j'ai pu l'entendre dire, mais en même temps auquel s'est attaché beaucoup de gens et qui se sont mis au vélo. Alors, je vais pas dire grâce à nous, mais de savoir que en fait on était là, ça les a aussi un peu poussé ça les a confortés dans leur emménagement, ouais. Sur le
en fait, ça a permis de passer le cap. Il y avait une envie.
Ça, plus l'arrivée du vélo cargo pour les familles, ouais. Ça a été vraiment des gros déclencheurs. Donc, un magasin de vélo qui se monte à côté de chez vous, quand vous hésitez à sortir de Paris pour vous installer, et de se rendre compte que République, c'est à 5 km et que c'est faisable à vélo, bah, ça a engendré plein de chouettes moments.
C'est intéressant, ça veut dire qu'aujourd'hui, la clientèle des bécanes d'Antoine, c'est une clientèle très locale?
Alors aujourd'hui, bah, on rayonne un peu plus que ça maintenant, parce qu'on commence à avoir une certaine réputation, on est assez bon en méca, en mécanique, on va aller de Romainville à Aubervilliers, Paris 20, Paris 19, même du Paris 11 un peu, et puis du Bondy,
Donc, Bondy Bobigny. Je dirais la population qui a un vélo, qui a envie, qui a un vélo, je dirais qui a besoin d'une bonne réparation et d'un bon mécano, le mot est, bah, va aux bécanes d'Antoine, ils sont bons.
On espère
c'est une question.
Ce qu'ils se disent. Ouais. Ben, on espère que c'est ce qu'ils se disent. Après, on essaye vraiment d'être accompagnant. Hein. C'est difficile parce qu'il y a toujours ce regard de... Il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur le vélo hein, ouais. après le Covid. Donc, ils ont le regard du mécanicien vélo comme le mécanicien voiture. Donc, ouais. Il y a toujours ce doute qu'on essaye
d'abattre. Il va mourir dans la farine.
Il va mourir dans la farine. Donc, on essaie de faire des devis systématiquement. Hein. On propose systématiquement un devis et on appelle si on s'est trompé ou si on découvre des choses. On essaie ouais. d'être le plus transparent possible. On fait des erreurs. Des fois, on n'a pas vu que le pneu était fendu, on n'a pas vu que ceci marchait pas, et ça arrive que des gens soient mécontents, mais majoritairement, de plus en plus, depuis quelques années, on va dire, depuis 4-5 ans, les gens viennent et nous laissent le vélo en disant « faites ce qu'il y a à faire ouais. ». Et ça, c'est hyper gratifiant pour l'équipe, parce que ça veut dire qu'ils ont vraiment gagné la confiance du client, et qu'il n'est plus un client, c'est vraiment une espèce de... Enfin, moi, j'ai toujours expliqué à mon équipe qu'en fait, on était des accompagnants, mmh. et qu'on était là pour... les accompagner sur leur quotidien, leur faciliter le quotidien. On n'était pas là pour s'enrichir sur leur dos, mais surtout qu'on pouvait être heureux, et c'est le cas. J'ai l'impression que l'équipe, elle est très très contente de rendre service en permanence.
Mais c'est canon que ce mot que vous dites, alors vous dites « j'ai l'impression », ça veut dire que vous prenez la précaution de ne pas parler à la place ouais. de vos équipes, mais je crois que c'est la première fois, ça fait 300 émissions, 350 émissions que j'ai fait, je crois que c'est la première fois que j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit « mais en fait, on est heureux de faire ce qu'on fait ah. ». Alors, j'ai évidemment des cyclistes et des gens qui partent autour du monde, ou peu importe, mais en tout cas, dans quelqu'un qui a une boutique et qui me dit bah, « en fait, je suis heureux de faire ce que je fais et je crois que mes équipes le sont aussi ».
Oui, j'espère. On n'a pas encore fait de qu'on appelle ça, des rencontres individuelles.
Ouais.
Ça, c'est un sujet.
Les entretiens de fin d'année
individuels, ouais, que j'ai pas fait. Ça, je suis parce que je viens pas du tout de la gestion humaine, donc ouais. c'est difficile. J'essaie de m'entourer de gens qui me font confiance et en qui j'ai confiance, à qui je délègue beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que je sens bien, bah, par exemple, des périodes comme la canicule. Là, c'est difficile pour eux. Il y a des choses qui sont pas dites parce que bah, y a pas la clim, y a ouais. pas de ventilateur, ouais. y a pas d'eau fraîche, y a pas de fontaine à eau, y a pas tout ça. Et ils sont pas là en train de râler, ils font avec ce qu'ils ont. Donc, je me dis, c'est quand même une chance incroyable d'avoir cette équipe. Mais derrière, c'est aussi difficile de mettre tout ça en place à des structures aussi petites et avec des systèmes économiques aussi fragiles. Parce que malgré tout, quand je parle de ce matelas économique qu'est la réparation, un magasin de vélo investit beaucoup sur des vélos neufs. Du stock qui dort et beaucoup de trésorerie, quoi.
Ouais.
Donc, ça reste très fragile.
Mais quand même, alors vous l'expliquez un peu, mais ça reste fragile. Malgré tout, vous avez l'envie et vous avez les moyens d'ouvrir une deuxième boutique, un deuxième lieu, alors pour en faire autre chose et pour agrandir l'emprise des Bécanes d'Antoine sur le quartier Pantin, Bobigny, etc.
L'emprise, ça je vais en entendre parler, ça. L'emprise.
Mais oui,
j'ai eu quelques échos comme ça de gens qui disent, ouais, de toute façon, c'est un peu ta ville, tout, ce qui n'est pas du tout l'idée, quoi.
Oui, non, mais oui, mais en tout cas, mais vous, enfin, pour revenir,
Oui, ça me fait rire, c'est pas grave.
Ouais,
mais effectivement, c'est un pari, donc je ne me savais pas au départ parieur joueur, mais c'est vrai que c'est un peu un pari. Et puis c'est un projet, les projets ça m'excite, je trouve ça génial de se lancer dans les projets, sinon à quoi bon, on s'ennuie vite. Je sais pas, monter une maison, un enfant, une famille, c'est un projet. Voilà, j'ai la chance d'avoir deux enfants, une maison, donc il faut d'autres projets.
Ouais.
Et donc cette opportunité de prendre un nouveau local a généré l'idée de d'agrandir la mission, en fait. C'est-à-dire qu'on a perdu le gros problème d'un commerce, c'est qu'il n'a pas de mission sociale, et ça c'est ouais. vraiment ennuyeux parce que la ville ne le voit pas comme ça. Alors ouais. certaines personnes de la ville l'ont vu comme ça, mais la majorité de la politique pantinoise ne le voit pas comme ça, les habitants ne le voient pas comme ça, ne voient qu'un magasin, alors qu'en fait on va
ils ne voient qu'un magasin, un lieu capitaliste.
Exactement. Et donc et plusieurs fois je me suis dit que j'allais arrêter et monter une association parce que ça avait pas de... J'avais ce regard un peu de travers, hein, de garagiste, arnaqueur. Mmh. Et donc, je me dis, je vais réessayer le café, en fait. Je vais relancer l'idée. Je vais relancer le projet. Mmh. Et effectivement, la difficulté, c'est que le cycliste n'est pas un vrai usager de café. C'est pas, il y a pas de troisième mi-temps dans le vélo, il y a pas de sport d'équipe. Même si on roule ensemble, on finit pas forcément ensemble. Des fois, il y en a qui se plaignent, qui sont un peu abandonnés par les autres. Il y en a qui roulent plus fort parce que ce jour-là, ils ont essayé de faire.
On en parlait juste avant, parce que on a déjeuné ensemble, chers auditeurs, chères auditrices. J'ai déjeuné avec Antoine, mais c'est ce que vous me disiez. Vous dites, on roule en peloton, on s'attend pas forcément, etc. etc. Mais malgré tout, c'est ce que vous me disiez à table, il y a une vraie différence quand vous accueillez un BRM 200 de nana et un BRM 200 pas que ouvert aux nanas, où il y a un vrai, il y a une vraie différence de d'esprit d'équipe entre les deux genres.
Ouais, oui, tout à fait. C'est ça, c'était quelque chose qu'on a découvert avec le premier BRM 200 que l'Audax a bien voulu, grâce à Anaïs Bossard.
On a eu les organisateurs, les organisatrices de ces BRM.
Voilà. Ils ont trouvé l'idée sympa de partir au bord du canal et revenir au bord du canal, et on a découvert un public qu'on connaissait pas, c'est-à-dire un public féminin qui s'attend, qui s'encourage, qui se félicite, qui parle pas performance, qui est vraiment qui va célébrer chaque arrivée en faisant une hola, la première à la dernière. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et on s'est demandé pourquoi. On n'a pas la réponse, hein, mais on se demande un peu pourquoi chez les garçons ça resterait performance individuelle. Bon, ouais. Tant mieux. Enfin, c'est un choix, hein, mais c'est pas drôle. C'est moins festif. Donc, ce cyclo-café, j'ai un peu décidé que ça allait devenir un cyclo-café des sports. C'est-à-dire, ouais. On va aller chercher d'autres choses, quoi. On va se dire.
Mais on va en parler justement. Ça fait 15 minutes. On va parler de ce cyclo-sport-café juste après la pause musicale, parce que les auditeurs et les auditrices, ils attendent ce moment. Vous écoutez Rayon Libre. Aujourd'hui, au micro, Antoine Gastelier, patron des bécanes d'Antoine à Pantin, le numéro 1 et le numéro 2. On va s'écouter La Fève, Finilé, et on se retrouve dans même pas 3 minutes, même pas le temps de faire une pause pipi, les gadgets. À tout de suite.
Yeah. Ouais. Ok. Eh, hey, c'est bon, j'arrive. Ce game de merde. Yeah. On va faire ça bien. C'est même plus un gamin, c'est une soucoupe. Toi, je vais te passer dessus comme une sous-couche. Si tu fais tout ce qui sort de ma bouche. Là, je suis en pétard que personne ne bouge. Précis, si je les rafale tout touche. C'est même pas mes petits, c'est mes petits. C'est juste un an de plus sur ma toutou. Ils vont rien entendre à parler tout. Je suis avec la pouche. Elle m'appelle le soir, elle t'appelle bouche. C'est que le début, t'es à bout de souffle. Ils ont pas lu l'art de la guerre Sun Tzu. Pour moi, ils ont tout essayé, même vaudou. Je touche pas la vaudie, envoie ma loud. Y'a que des vautours, je crois qu'on est maudit. Ça me rend malade. Bientôt j'envoie la roquette. Back in the day, j'aurais pu faire ta poke. Je me vois dans les hills avec ma baby mama et mon Billy Pocket. Big love, ils ont que ça en bouche. Je vérifie qu'il y a tout dans le queue si on bouge. Je suis un vrai bâtard, un peu comme George Bush. Je veux me barrer de là avant mes 27 bougies. Ça devient sérieux, sérieux, sérieux. On m'a dit fini les vas-y. T'as fait le snake avec moi. Et quand je te confronte, tu fais le mec évasif. Ça devient sérieux, sérieux. On m'a dit fini les vas-y. T'as fait le snake avec moi. Et quand je te confronte, tu fais le mec évasif. Yeah, yeah, yeah. Fini les. Tous mes soldats m'ont dit fini les. Mon équipe m'attend, ils m'ont dit fini les. Ma buddy, mon père, ma mère m'a dit fini les. Yeah, yeah. Fini les. Tous mes soldats m'ont dit fini les. Mon équipe m'attend, ils m'ont dit fini les. Ma buddy, mon père, ma mère m'a dit fini les. Même plus un gamin, c'est une soucoupe. Toi, je vais te passer dessus comme une soucouche. Si tu veux tout ce qui sort de ma bouche. Là, je suis en pétard que personne ne bouge. Précis, si je les rafale tout touche. C'est même pas mes petits, c'est mes toutous. C'est juste un an de plus sur ma toutou. Ils vont rien entendre à parler tout.
On a compris, fini les. Nous sommes de retour, Rayon Libre, c'était La Fève, fini les. Nous sommes avec les bécanes d'Antoine. Enfin, Antoine qui n'a pas un, mais deux lieux à Pantin, le long du canal de l'Ourcq, quelques mètres après les magasins généraux, quand on a Paris dans le dos. Deux belles adresses pour partir et revenir et se faire une virée vers Meaux, Soissons, par exemple. Antoine, le deuxième lieu, que c'est ce que vous disiez juste avant la pause musicale, une envie d'un lieu de socialisation, j'imagine, avec des prix plutôt maîtrisés et du vélo dedans un peu, mais surtout du sport. C'est ça?
Surtout du sport. Ouais, on va pas non plus couvrir tous les sports. C'est-à-dire qu'on vient du vélo, donc on connaît pas tous les sports. Ouais. On voudrait on voudrait diffuser le Tour de France. C'est assez marrant.
Beaucoup du vélo, ça.
Non, c'était avec mon équipe que finalement, au fil des années, j'ai découvert un peu les courses de début d'année,
ouais, les classiques,
et que je trouve hyper sympa à regarder. Donc on diffuserait bien ça. Mais effectivement, pour revenir sur le public du vélo, et c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'ils viennent à 14h. Parce que le début de l'étape les intéresse pas forcément, il se passe pas grand chose.
Ouais.
C'est pas tout à fait vrai, il se passe quand même tout le temps des choses. Donc on va essayer d'initier des petits événements autour de ça avec des animations pour expliquer ce qu'est un championnat du monde, ce qu'est une équipe de Coupe du Monde. autour du vélo, donc expliquer où en est chaque coureur, son classement, mais de façon... Alors, pareil, on va chercher des formats. Enfin, voilà, ouais. On va essayer des choses. Et puis après, on se dit, bah, on va aussi passer ce qui fait tourner un bar. Hein, ça peut être plus du foot. Bon, mmh. On n'est pas des super footeux, mais quand même, dans mon équipe, il y en a un qui est quand même assez fondu de foot. Voilà, peut-être du rugby, ouvrir le dimanche. Donc, toutes ces choses sont encore à caler. Ouais. On va tester des choses. Parce
là, en ce moment, on a la Coupe du Monde de foot. Alors, c'est des horaires qui sont pas très pratiques voilà, pour une boutique comme la vôtre. Ouais. Mais c'est quelque chose que vous pourriez diffuser.
Diffuse.
L'idée, c'est quoi? C'est de proposer un lieu de vie, un lieu de rencontre, un espace de coworking?
Alors, à l'étage, il y a un espace de coworking, en effet, qui n'est pas non plus encore ouvert. Et puis, un lieu de vie, parce que l'endroit est vraiment chouette. C'est-à-dire que on est au bord de l'eau, il y a le soleil du matin, il y a le soleil le soir sur le canal, il y a des très très belles lumières. Et puis, on va essayer de faire une offre café vraiment correcte. Dedans, il y aura
du thé matcha avec du café au lait d'avoine ou pas?
Alors, c'est les questions qu'on se pose, justement, pour pas faire trop parisien, ce qu'on m'avait un peu reproché au départ, de pas emmener trop les choses. On va rester aussi sur des produits hyper simples.
Ouais. Quoi. Ouais. Après, c'est intéressant parce que c'est un peu ce que vous racontez, l'envie pendant un Paris-Roubaix ou pendant la Strade Bianche d'avoir quelqu'un qui vient raconter au public comment ça se passe, les coulisses, enfin, essayer d'éduquer, en fait, éduquer, cultiver. Est-ce qu'on peut imaginer aussi un lieu d'exposition? On a pas mal en Ile-de-France notamment, on a quand même pas mal d'artisans du vélo. Est-ce que c'est un endroit où, j'en sais rien, ils pourraient venir exposer leur vélo et venir raconter leur métier, la difficulté, ce qu'ils proposent, etc. Ou ça vous semble compliqué?
Non, ça fait partie des premières idées que j'avais imaginées, qui était un meuble. Donc c'est parti d'un meuble en fait. Un ami qui m'a trouvé ce qu'on appelle une servante, une roulante. Ouais. Donc un établi très gros, très plat, très très large, sur lequel j'aimerais bien proposer à des artisans du cycle d'exposer un vélo, et on change d'artisan tous les mois, tous les mois et demi. Il y a peut-être un iPad qui présente la démarche de l'artisan, quel qu'il soit, et puis peut-être des petits catalogues, enfin voilà. Peut-être la privatisation du lieu par des marques vélo ou l'appropriation de certains rayonnages, pourquoi pas. On peut dire, bah tiens, après on va faire des tests, on va tester toute l'année des modèles économiques en fait.
Vous allez itérer et puis essayer de trouver justement votre secret de sauce.
C'est ça, et la question c'est qu'est-ce qui rapporte, parce qu'on peut pas se leurrer, hein, il faut rembourser tout ça, et il faut payer les équipes, quoi.
Et c'est important, c'est aussi ce que vous me disiez quand on déjeunait ensemble. Aujourd'hui, vous ouvrez ce deuxième lieu, mais tout est auto-financé. Il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien.
Alors, il y a un prêt sur les travaux généraux du bâtiment. Parce que si je me plante, le bâtiment est entièrement aux normes pour être reloué.
Oui.
À qui que ce soit, n'importe quel type d'entreprise, ça peut être une agence d'archi ou un cabinet médical. Donc tout est aux normes ERP, 4e, 5e catégorie. Tout est bien fait. Mais tout l'aménagement intérieur du magasin, c'est le magasin qui paye. C'est pour ça qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on est dessus, ça fait très longtemps qu'on cogite à faire des meubles avec beaucoup de recyclage. Donc, on a récupéré du mobilier, des panneaux de bois, de décors événementiels, et on construit tout nous-mêmes. Donc, c'est très lent, c'est un budget, parce qu'il faut quand même payer menuisier, vernis, peinture, tout ça, et que le transfert d'argent entre un petit magasin et un magasin un peu plus grand, les agencements, est compliqué. Donc j'essaye de pas avoir de prêt là-dessus. Ouais.
Et ça va libérer de la place ou de l'espace dans la boutique numéro 1?
La boutique numéro 1 va rester, ça va rester que les ateliers. Donc on va avoir plus d'air, plus de place de stockage, plus de pièces d'occasion aussi, parce que c'est quand même un sujet. On essaye aussi d'avoir un vrai stock de pièces d'occasion pour
mais les valoriser. Mais aujourd'hui, la boue de la bécane d'Antoine, celle qu'on connaît, qui est l'adresse historique, mais elle est aussi lieu d'exposition de vente de vélos.
C'est ça. Mais c'est trop petit.
C'est trop petit.
Et puis surtout, c'est trop petit pour le café, quoi.
D'accord.
Le café, on arrivait à le faire fonctionner l'été avec une terrasse dehors.
Ouais.
Mais même la terrasse dehors, elle n'est pas bien grande et elle servait de parking à vélo, quoi.
Ouais.
Les gens viennent, laissent leur vélo. Donc,
D'accord. Eh bien, il y en a un qui ne laisse pas son vélo. C'est Abel Guggenheim, chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes dans Rayon Libre. Il se dit effectivement que dans les milieux autorisés, que certaines n'écoutent que la chronique d'Abel dans cette émission. Est-ce que c'est vexant pour moi et pour nos invités? Pas du tout. Le vélo, Rayon Libre, chacun le consomme comme il veut, avec ou sans lait d'avoine. Voici le moment d'Abel Guggenheim. Abel, on t'écoute.
Bonjour. Il est sympa, Jérôme. Quand je l'annonce le dimanche soir, à l'heure où habituellement je lui envoie ma chronique qu'il devra s'en passer cette fois-ci, Il transforme mon manquement à mes obligations en « Abel peaufine sa dernière chronique de la saison ». Sympa, mais d'un autre côté, il m'oblige à faire une chronique de qualité. On va essayer. Pour cette dernière chronique avant les vacances, je voudrais réfléchir avec vous sur la longue période. Lever le nez du guidon, mais aussi des pieds et du volant. Des évolutions dans la physionomie et le fonctionnement de la ville, en particulier dans les transports, il y en a bien sûr déjà eu. À la fin du 19e siècle, par exemple, le cheval régnait sur la rue, et il en a disparu en quelques années. Tout un univers humain et technique l'accompagnait, dont les traces des quelques chevaux de la garde républicaine qui patrouillent périodiquement dans Paris ne donnent qu'une idée partielle. On se demande ce qu'il en était lorsque des milliers de chevaux se déplaçaient tous les jours partout dans la ville. Je suis certain que des chercheurs ont étudié les modifications consécutives à ce changement brusque. Bien plus près de nous, à Paris comme dans les villes françaises, grandes ou petites, la seconde moitié du XXe siècle semble avoir été une période homogène. La place privilégiée de l'automobile était incontestable et incontestée, dans l'occupation d'espace, dans les esprits, mais aussi dans les comportements entre les personnes. Depuis environ 30 ans, les systèmes de mobilité ont évolué vers des relations plus diversifiées. J'aurais peut-être l'envie et l'occasion de vous en parler et ou d'écrire à ce sujet. Nous ne savons pas à quelle étape de cette modification d'équilibre nous sommes, mais nous sommes bien obligés de constater qu'elle se grippe. Des révoltes, bonnets rouges, gilets jaunes, protestations contre la baisse à 80 km/h sur les départementales, ont parfois amené à freiner ou annuler des évolutions en cours. Événements significatifs ou phénomènes marginaux, certaines municipalités nouvellement élues en mars 2026 n'ont rien trouvé de plus urgent comme mesure à prendre immédiatement que d'effacer les pistes cyclables tracées par les équipes qui les avaient procédées. Cyclistes et piétons qui se considéraient et étaient considérés comme des alliés naturels sont aujourd'hui très opposés dans leur discours comme dans leur pratique. Et des difficultés réelles sont apparues entre ces deux groupes qui n'ont jusqu'à présent nulle part été résolues de façon satisfaisante. Les concertations mises en place dans beaucoup de collectivités locales par des élus volontaires et décidés n'aboutissent le plus souvent au mieux qu'à des compromis acceptables entre les parties, tenant compte des rapports de force réels et des bonnes volontés de part et d'autre, alors qu'elles pourraient et devraient rechercher collectivement les solutions optimales pour toutes et tous. Je vous souhaite de bonnes vacances et vous retrouverez avec grand plaisir en septembre.
Merci, c'était Abel Guggenheim. Nous sommes toujours avec Antoine Gasselier, le dernier, dernière ligne droite pour cette émission spéciale Bécane d'Antoine. Est-ce qu'il y a une inauguration prévue? Si oui, quand? Et quand même, de redonner-nous les adresses, Antoine, de vos boutiques.
Alors, il y a une inauguration prévue. On a fait des entre-ouvertures, un peu pour remercier les équipes. On va faire une pré-ouverture pour le voisinage. Ouais. Et après, une inauguration officielle, on se prépare une vraie carte, une vraie offre. Et ce qui est nécessaire de faire, c'est un inventaire intermédiaire. Il faut qu'on fasse un inventaire de la première boutique pour tout ce qui va partir dans la deuxième. Ouais. Et ça, on va essayer de le caler en juillet. On pensait le faire avant, mais c'est raté. Donc, il faut rester connecté sur la page Instagram des Bécanes d'Antoine pour connaître la date d'inauguration. À mon avis, ça sera en septembre pour une vraie inauguration. Ça n'empêchera pas d'avoir quand même sur la page Instagram des informations sur des ouvertures événementielles, comme les matchs de foot. Donc, des choses qu'on peut cadrer à notre échelle. On est capable de prendre des extras à ce moment-là. Ouais. Mais tout n'est pas encore bien en place pour dire ça y est, ça démarre. Et comme on sait que le jour d'inauguration, c'est là que tombent les critiques, on ne voudrait pas en prendre 10 de travers parce qu'on a fait un faux pas sur une offre qui était peut-être pas bienvenue. Et le reste de votre question?
Les adresses.
Les adresses, on est pour l'un. Alors ça, c'est un peu compliqué. Alors, on
est sur le canal de l'Ourcq.
C'est sur le canal de l'Ourcq. Il y en a un, c'est le 15 mai, Hélène Brion, sur le canal de l'Ourcq, c'est le numéro 1. Et le 2, en fait, son adresse est derrière. Elle est dans la rue de l'ancien canal, parce que l'entrée officielle, c'est rue de l'ancien canal. Alors qu'en fait, le magasin est côté canal. Donc, faudra venir au 41 rue de l'ancien canal, faire le tour du bâtiment.
Okay.
Et nous trouver.
Okay. Et au pire, on demande dans la première
on sera guidé. De toute façon, on reste sur le.
Parce que vos équipes sont heureuses de rendre service, c'est ça?
Exactement.
Merci beaucoup. C'était Antoine Gasselier, des Bécanes d'Antoine. Merci. C'est la fin de ce rayon libre. Restez sur 93.fm, sur Cause Commune. Il est 14h30 dans quelques secondes. N'oubliez pas, le vélo est une chance et ce serait dommage de ne pas l'enfourcher, notamment pour aller rendre visite à Antoine. Je vous souhaite à tous et toutes un bel été avec un peu plus de vélo que prévu. Pour vous tous, pour vous toutes. Rayon Rayon Libre prend une pause estivale bien méritée et on se retrouvera en septembre frais comme des gardons et non pas fumés comme des saumons. Merci à tous et toutes pour votre écoute, vos messages, vos relais. Merci aux invités qui sont venus se raconter au micro cette année. Merci à l'équipe de Cause Commune pour cet espace radiophonique précieux. Merci à Abel. Rendez-vous le 6 septembre. Les invités sont déjà identifiés. Vous avez tout l'été pour lire leurs livres, BD, essais graphiques, je sais pas bien. Ça s'appelle Solution Vélo de Céline Pernaud, Burlet et Valérie Pernaud aux éditions Point Nemo, 22,90€ pour affûter vos arguments quand vous portez un plaidoyer vélo. C'est cadeau. Allez, la bise et on se retrouve en septembre.